des prêts de caméras haute définition, des ateliers radio et une billetterie de spectacle avec des centaines d'événements chaque année aux tarifs les plus bas de tout Paris.
Le centre culturel du Crous, c'est également une galerie d'art contemporain, un orchestre et un chœur de 200 étudiants. Des animations et expositions toute l'année dans les restaurants et résidences universitaires et plusieurs concours artistiques.
Votre choix, votre culture.
Contacts et informations sur culture-crous.paris.
The story I'm about to tell you is one of the most extraordinary tales of our time. It's a story of change. A change which has affected all of us.
Muito boa noite, Tain.
Uma superprodução indicada ao Oscar. Um novo mundo. Aventura. Conquista. Poder. E um amor impossível. Um novo mundo.
Novo Mundo, votre rendez-vous musical avec un autre Brésil. Un dimanche par mois, 22h, sur Radio Campus Paris.
93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
La bouquinerie, c'est la meilleure émission littéraire de Radio Campus Paris, puisque c'est la seule et c'est tout de suite.
Tant qu'il y a des pages,
des mots,
des mots,
ou pas.
Et puis tant que ça se lit, hein.
Même si ça se lit en diagonale, à la verticale, à tête en bas,
la tête en bas.
Yahoo.
Et si ça se lit aux toilettes aussi.
Ouais, aussi.
Ben c'est la bouquinerie. Un mardi sur deux. Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, chères mesdames, bonsoir, chers messieurs, bonsoir, chers mesdassieurs, chers messieurs, dames, je m'y perds, on est si nombreux ce soir à la bouquinerie que j'en zappe tout mon vocabulaire. Aujourd'hui, le magazine Bouquinarial et Bouquinquant de Radio Campus Paris vous fait franchir les portes de la librairie-galerie des éditeurs associés. Cette charmante échoppe nous a surpris au détour d'un recoin de rue du quartier latin, alors que bras dessous et bras dessus, avec Eric, nous Flagnon. Bonsoir Eric.
Bonsoir Anna, nous étions surtout en retard et nous avions un rendez-vous avec des gens.
Oui, c'est vrai. Mais bon, les ruelles et les librairies du cœur de Paname n'ont plus de secret pour toi, puisque tu allais faire un tour dans une autre librairie du quartier.
Oui, j'ai vu Michel Chandaigne à la librairie portugaise et brésilienne Place de l'Estrapade.
Voilà. Et tu nous as rapporté un petit peu de son. On retrouve ton reportage à 20h35. Ce n'est pas par hasard que tu allais rencontrer Michel Chandaigne, puisque les éditeurs associés, c'est une librairie-galerie et une association dont les éditions Chandaigne, parmi d'autres, sont à l'origine. Pour vous présenter cette belle troupe, je vous l'ai dit, nous sommes nombreux en studio ce soir. Les étagères de la bouquinerie ploient, croulent de bouquins et de bonnes ondes. On se retrouve tout de suite. Et c'est la bouquinerie. On a rancard avec les éditeurs associés dans un tout petit instant, mais tout de suite, la bouquinerie vous entraîne dans une autre librairie. Elle s'appelle la Lucarne des Écrivains et se trouve rue d'Ourcq dans le 19e arrondissement. La semaine dernière, on est allé ouvrir nos oreilles à une soirée hommage au poète, écrivain, critique et traducteur Pierre Garnier. Les éditions L'Herbe qui tremble publient à la rentrée le dernier ouvrage du poète qui nous a malheureusement quittés en 2014. Ce recueil, c'est Le Sable Doux. Et Pierre Garnier y fait cohabiter poèmes linéaires et un long, très long et beau poème spatialiste où l'on explore au fil des pages, des formes et des mots aussi bien la sensibilité de cet artiste que nos propres souvenirs et sensations.
Je vais surtout faire parler Pierre Garnier. Il n'est pas là, mais c'est lui qui va parler. J'ai donc pas mal d'extraits de ses lettres, de ses textes. Bon, ça m'a paru plus simple de parler de Pierre Garnier en le faisant parler lui. 12 juin 1998. Le poète est un homme qui a eu une enfance et qui la garde jusqu'à la mort. Peut-être peut-on vérifier dans notre société que ceux qui n'ont pas d'enfance n'ont pas de mort et de poésie. Pas d'enfance, cela veut dire pas de rêve, pas d'émotion, pas d'aventure, pas de pont vers les autres êtres vivants. Une humanité qui tue ses derniers éléphants et ses papillons ne peut pas avoir de poésie. Elle ne crée pas de monde nouveau. Pourtant, il est merveilleux l'enfant poète. Il est né du monde. Et quand il écrit son premier poème, il n'y a rien entre le soleil et lui. Rien entre Homère et lui. Il est alors vraiment une espèce à part. Cette lettre écrite en 98, j'ai envie de dire qu'il aurait pu l'écrire en 2014, quand il nous a remis le sable doux.
Alors dis-moi, pour le poète spatialiste, là, tu es servi, hein, il y a l'espace. Ah oui, il y a l'espace, il y a des oiseaux, évidemment. Ah, pour nous, si tu poses la question sur les oiseaux, pour nous, les mots sont des oiseaux, les oiseaux sont des mots. Et donc, l'un des premiers buts était quand même de séparer le mot de la phrase et de faire éclater en quelque sorte la phrase elle-même.
Donc le sable doux. Alors c'est son dernier recueil. Je vais parler du travail que Pierre a effectué sur son dernier recueil. Il a travaillé jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, il continue à peaufiner, à améliorer ce livre.
Le vol est volonté pure. L'oiseau vole pour se gommer. L'oiseau me dit aussi que l'infini est dans le point.
Alors, là je lis. Ce recueil, Pierre Garnier nous en avait parlé dès avril 2013, dans une lettre où il nous l'annonçait. Je cite, « Je considère ce que je fais aujourd'hui comme la fin de ma poésie spatiale, un couronnement. Je vous enverrai le manuscrit quand il sera fini, et si vous voulez l'éditer, nous verrons pour la présentation. Oui, j'arrive là aussi à une fin. »
La sphère est l'état parfait du vol. Je peux dire aussi que la ligne droite est l'état parfait du vol.
En octobre de la même année, il écrit « J'ai fini de mettre au propre les écrits de cette année, notamment un manuscrit qui termine et relance la poésie spatiale, et que je serais heureux que vous éditiez. » Donc il parlait de la fin en début d'année, et là en fait il relance. Ce manuscrit porte le titre long de un livre de brèves images au long prolongement. Je vous remettrai ce manuscrit au mois de novembre. Alors nous le recevons en novembre 2013. C'est ça. Plus de 300 poèmes spatialistes ayant finalement pour titre « Le sable doux, un cahier d'écolier, poème visuel au long prolongement ». Voilà, c'est son titre final.
Lecture d'un poème linéaire, puis d'un poème spatialiste de Pierre Garnier.
On change de page. Quelle navigation que ce jardin! Quelle régate! Chaque arbre a sa proue et sa poupe, et tous naviguent sur un plan d'eau infini, qui dans l'éternité est reflet et écho. Les arbres parcourent l'infini avec les rames de leurs branches. Parfois elles sont comme de grands nageurs, parfois comme de grands coureurs. Les arbres parcourent les siècles et c'est un très long voyage. Ouais. Là vous voyez encore très simplifié, une parenthèse. Deux chiffres et une lettre. Première parenthèse, la Terre est un miroir. Deuxième parenthèse, la Terre est un manège. Parenthèse avec un point, le point tend une courbe. 6 et 9, soleil couchant. Et le A, enfin, le grand livre est ouvert. Pierre Garnier ne faisait pas de différence entre sa poésie spatialiste et sa poésie linéaire. Une dernière conversation au téléphone pour nous indiquer comment placer ces différentes parties et nous dire encore que sa poésie spatialiste se termine ici et se relance, car, dit-il, j'en ai fini avec le cercle.
La terre, l'eau font cercle.
Le cercle était une des grandes préoccupations de Pierre Garnier. Alors, j'en ai fini avec le cercle quelques jours avant sa mort. C'était très étrange. Ce que je dis de Pierre Garnier, je crois que c'est vrai pour tous les poètes. Voilà, donc je termine en disant que la boucle est refermée. En un cercle qui aura été mouvement de vie, naissance et mort rapportés à cette courbe, de la pureté de l'origine à celle où nous retournons à la veille de la mort. Pierre Garnier peint le cercle en blanc. Il neige, la nuit ne viendra pas, dit-il dans un de ses poèmes. Il se voit comme un bonhomme de neige éternelle. C'est des petites questions.
Le Sable Doux, dernier recueil francophone de Pierre Garnier, paru aux éditions L'Herbe qui Tremble. Ça se passait à la Lucarne des Écrivains dans le 19e, librairie qui organise tout un tas d'événements, de lectures, d'expos, d'ateliers. Et le programme est à retrouver sur lucarnedesecrivains.wordpress.com. On plie bagage, on sort du 19e pour rejoindre les beaux quartiers et la rue Tournefort où se trouvent les éditeurs associés. Pour nous en parler ce soir, Victorine, libraire aux éditeurs associés. Bonsoir.
Bonsoir.
Brigitte Cazot, éditrice à Point de Suspension, est également présente ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes en compagnie de votre auteur et dessinatrice, Errolf Totor.
Bonsoir.
Vous venez de publier le journal d'Ava et vous êtes aussi venu accompagner, c'est pour ça qu'on est très nombreux, tout le monde vient accompagner, d'une lectrice à qui je fais bonsoir de plus loin.
Bonsoir.
Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc vous nous lirez un extrait du journal d'Ava en fin d'émission à 20h50. Également présente ce soir, Anne Lima des éditions Chandaigne. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous avait prévenu, on est pas mal nombreux ce soir. Donc pour les éditeurs associés, cette association, elle existe depuis combien de temps ?
Ça fait une dizaine d'années, je crois qu'elle existe. 2004 en fait.
Précisément, vous avez fait votre anniversaire l'année dernière. Et à l'origine, comment elle s'est créée ? Il y a quatre éditeurs qui sont à l'origine de cette association, c'est ça ?
En fait, au départ, on était six. Et
d'accord.
Puis on en a perdu deux en route et maintenant on est quatre.
Voilà. D'accord, et c'était l'initiative qui a... Enfin, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous réunir comme ça ?
Alors en fait, l'idée est venue par rapport au grand salon, salon de Montreuil, salon de Paris, parce que les petites maisons d'édition sont souvent dans les coins perdus. Donc on a pensé que si on pouvait se regrouper, on aurait peut-être possibilité d'avoir un stand plus grand et donc d'être un petit peu mieux placé. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'idée de départ. Et puis ensuite, d'autres idées sont venues. Donc comme faire des salons un petit peu partout en France, en province et ou à l'étranger et mutualiser en fait pour réduire les frais, etc. Quoi. Donc voilà, on s'est associé pour ça au départ.
Et ensuite, il y a eu une librairie qui a ouvert, une librairie-galerie, dans les anciens locaux des éditions Chandaigne, si j'ai bien compris.
De la librairie portugaise et brésilienne.
Mais maintenant, du coup, il y en a deux. Il y a aussi la librairie portugaise et brésilienne ailleurs.
Oui, il y a la librairie portugaise et brésilienne qui est place de l'Estrapade. Et nous, on est restés donc, rue Tournefort. Et c'est une librairie, bien sûr, qui regroupe les quatre éditeurs actuels d'éditeurs associés, mais dans lesquels on invite... là, on doit avoir une vingtaine d'autres éditeurs que l'on invite à montrer leur travail de façon un peu plus, disons, visible que dans les librairies généralistes, parce qu'ils peuvent montrer une bonne partie de leur catalogue.
Et donc, hormis cette association première d'il y a 10 ans et cette librairie, qu'est-ce qui réunit les différents éditeurs des éditeurs associés ? Quels sont les points communs et comment est-ce que vous faites vos choix ? Déjà, qui fait les choix peut-être ?
Bon, la réunion initiale, c'est un peu parce qu'on se ressent, parce qu'on travaille de façon semblable. Les formes de maisons d'édition, c'est souvent unipersonnel, une personne, voire deux qui travaillent. En général, on a même des productions très différentes. Ça peut être de la jeunesse, littérature, livres plus graphiques ou plutôt des livres sur l'art. Mais sinon, c'est plutôt, en général, les éditeurs que l'on invite aussi à venir travailler, présenter Leurs livres sont des éditeurs que l'on apprécie, dont on aime la production, et qui, comme nous, ont besoin aussi d'avoir une certaine visibilité, et qui sont capables aussi de penser peut-être un peu comme nous, c'est-à-dire, chacun de nous a notre travail, doit distribuer, vendre ses livres, c'est-à-dire on a notre métier, mais on est capable aussi de travailler ensemble et de prendre du temps sur notre travail et sur notre vie pour essayer de faire des choses en commun qui ne sont pas toujours très profitables, mais en tout cas où on s'amuse, où on arrive aussi à développer aussi notre activité.
C'est comme une grande coloc d'éditeurs au District Tournefort.
Oui, on peut dire.
Communauté, coloc. Oui, communauté plutôt.
Une communauté. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on en discutait avec Eric, on a plutôt tendance à imaginer qu'un éditeur va se sentir rival ou concurrencé par d'autres éditeurs. Et là, le fait que vous vous réunissiez pour être plus fort, c'est une démarche qui est très intéressante.
Oui, alors en fait, quand on est une petite maison d'édition, la plus grande difficulté, c'est d'être vu par le public. Donc on part d'un principe assez simple, c'est que les gens nous voient, ça c'est le principal, et après le public choisit. Donc on n'est pas vraiment en concurrence, à partir du moment où chacun peut montrer son travail, après les gens, ils regardent et puis ils choisissent ce qu'ils préfèrent. Il n'y a aucun problème là-dessus, quoi.
Surtout que c'est des choses quand même très diverses.
On croise beaucoup de jeunesse, du roman, des beaux livres qui sont...
D'une part, il y a ça, mais il y a aussi chacune de nous est peut-être meilleure dans certaines choses, même dans le métier. C'est-à-dire que le métier est fait d'une multitude de petites activités. Et là, il y a vraiment des forces à trouver. C'est-à-dire que Brigitte va savoir faire certaines choses mieux que moi, ou que Anne Leloup, ou que Myriam de Grève, ou même que d'autres éditeurs que l'on invite. Et on essaye justement, en général, d'apprendre avec l'autre doucement. C'est-à-dire que ça va un peu naturellement. Et là, je pense que, effectivement, disons le mot, il y a une force qui se crée.
Et c'est l'adage à plusieurs, on est plus fort.
Plus forte, vous avez bien fait de dire chacune d'entre nous. C'est vrai que là, dans le rang des invités, il n'y a que des filles, que des femmes.
Que des filles, oui. Disons qu'au début, Brigitte.
Oui, alors au début, il y avait en fait dans les deux qui ont disparu de l'association, il y avait deux éditeurs masculins, donc, et puis qui ont été happés par d'autres occupations et qui n'ont malheureusement pas pu continuer l'édition. Donc voilà, mais c'est un hasard, enfin je veux dire, ça aurait bien pu être autrement.
C'est pas un critère,
voilà.
Et aux éditions Chandaigne notamment, mais c'est quand même le cas de la plupart des livres que l'on trouve dans la librairie des éditeurs associés. Il y a une qualité déjà de l'objet livre qui est surprenante. On ne croise pas du tout ce genre d'ouvrage en librairie, ou bien c'est très rare. C'est un des livres qui sont beaux, qui sont la plupart du temps, quasiment tout le temps, illustrés avec des illustrations vraiment de qualité. Un papier qui, on le sent, un grammage de qualité, tous les livres ne vont pas avoir le même grammage. Il y a vraiment un parti pris sur l'objet. C'est vous qui prenez ces décisions ?
Oui. Donc les éditions, on les a créées en 1992. Et donc je les ai créées avec Michel Chandaigne, qui est un ancien typo. Donc il faisait, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il faisait encore des livres sur une presse à bras avec des caractères au plomb. Et donc il y avait tout de suite un lien au livre, au papier, qui est déjà assez différent. Après, bien sûr, on est tout de suite passé au logiciel, à l'ordinateur, mais du coup avec un regard un peu différent, parce qu'avec un logiciel Express ou InDesign, on peut faire tout et aussi n'importe quoi. Donc là, on avait peut-être un regard peut-être un peu éduqué. Puis c'est, en fait, chaque fois que l'on nous parle d'un livre, qu'on nous propose un livre ou que l'on pense, nous, à un livre, on pense tout de suite à l'objet. Moi, je visualise tout de suite l'objet. C'est ce qui me plaît, en fait, le plus, comme choisir une belle robe. Voilà, c'est ça, faire un livre. Sinon aussi, si on répétait, si on avait toujours des collections très définies, si on était toujours dans la répétition, ce serait un très grand ennui, voilà, je pense.
Eric,
oui. Oui, je voulais dire, dans le reportage qui va suivre, on va parler de votre dernier livre, Le Voyage des Plantes. C'est un livre très, très soigné. Et je voulais juste savoir, hormis la typographie qui est un art pour Chandaigne, j'ai cru comprendre, comment vous avez fait pour trouver ces illustrations ? Parce que vous êtes allé dans les archives, dans des bibliothèques ?
Bon, ce livre est aussi la traduction et l'adaptation d'un livre qui avait été publié déjà, en 1998 au Portugal et qui avait été fait par l'Institut de recherche scientifique et tropicale de Lisbonne, qui est un centre de recherche d'ailleurs qui vient d'être pris par l'Université de Lisbonne et qui est aussi un centre d'archives. Ils ont des documents. Il faut dire que c'est vrai que les Portugais ont été au fin 15e, 16e et encore début 17e un peu partout dans le monde et qu'avec eux, il y avait aussi des dessinateurs, des peintres voyageurs. Et comme ça, il y avait des collections, des illustrations très intéressantes qui ont été apportées, qui font partie de collections qui sont au Portugal. D'accord. Donc on a pu partir de ce fonds. Et puis nous-mêmes, déjà à force, en travaillant sur les récits de voyage dans la collection Magellan, on a beaucoup, beaucoup d'illustrations que l'on a recueillies pendant des années. Donc après, il n'y avait plus qu'à cueillir, choisir, hésiter. Mais là encore, on vient de découvrir, par exemple, qu'à Blois, la bibliothèque municipale de Blois, il y a une collection de botanique incroyable que l'on ne connaissait pas. Et si jamais on réimprime, je pense qu'on changera encore quelques images.
Et vous imprimez avec un papier qui est remarquable, comme le disait Anna. C'est un papier vélin, c'est ça ?
Non. Là, je pense que si c'était un papier vélin, il faudrait le vendre à un prix.
Il est doux au toucher.
Non, c'était un Munken pur. Voilà, qui est un papier quand même assez utilisé par certains éditeurs, mais c'est vrai qu'il est assez encore, enfin il est surfacé sans être couché, il a un côté
ça devient technique.
Mais il a un côté ivoire qui est très doux. Bon voilà, c'est quand même
le vélin, le principe c'est de faire sécher.
Moi je veux savoir ce que c'est du vélin. Voilà,
c'est le principe, c'est que c'est séché sur une feuille. Et qu'on voit, on le remarque parce qu'il y a encore la trace du treillage sur la feuille. C'est ça,
voilà,
le
mais ça c'est vraiment des feuilles, du papier qu'on achète à la feuille. Hein. Le vélin, maintenant, c'est vraiment pour des livres tirés à 20 exemplaires, 50 exemplaires au maximum.
C'est
vraiment du très, 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 très beau papier.
Et pour revenir à la librairie, parce que je dis depuis tout à l'heure librairie-galerie, mais on n'a pas parlé de l'aspect galerie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les événements? Il y a des pots, il y a des expositions
Alors, chaque mois, il y a une exposition, un éditeur aussi indépendant invité à l'honneur, avec une soirée généralement, qu'on construit avec eux. Il y a des lectures pour les enfants, maintenant, une fois par mois, le samedi matin. Il y a peut-être des petits concerts qui vont voir le jour.
On en aura le 14 novembre, je pense.
Dans la librairie ?
Le 14 novembre, oui. D'accord. Un concert, trois jeunes violoncellistes.
Qui vont faire du hard rock.
Ah, c'est super.
Ça vaut le détour. C'est très très bon, il faut venir.
Et donc vous faites, tout le monde fait partie de la programmation ou c'est uniquement du coup celle qui gère la librairie ou ça se passe comment ?
Alors en fait, à la librairie, on est deux. Il y a Céline Joachim qui coordonne l'association, et moi donc. Et les éditrices, c'est vrai que Chandaigne, ils sont juste à côté de nous, donc on les voit très régulièrement. Les autres, il y en a une, l'édition Éperluette, qui est en Belgique. On fait des rendez-vous réguliers, mais... Donc voilà, généralement, on discute beaucoup, Céline et moi, et après, de manière collégiale, par Skype, par mail, et... On se met d'accord sur les éditeurs qu'on invite aussi, sur les soirées qu'on va faire. Et
surtout sur un festival.
Oui, un gros festival.
Le festival Raccord, ouais. On en parlera un tout petit peu plus tard. Oui. Et d'ici là, on va écouter un petit peu de musique. Pause musicale choisie par nos invités. Donc c'est vous, Anne-Lima, qui avez fait le choix de ce morceau.
Oui, c'est un chanteur et surtout un très, enfin, et avec toute son équipe, un chanteur portugais qui s'appelle Faust et que j'aime beaucoup, qui a une voix magnifique, qui utilise beaucoup les percussions et qui s'inspire beaucoup de musique traditionnelle portugaise. Et là, c'est un extrait d'un concert qu'il a fait à Lisbonne déjà il y a quelques années, qui est fantastique et avec un rythme incroyable et sur la thématique du voyage et notamment aussi des voyages portugais.
Alors on embarque tout de suite.
E Bruto corta nesses mastros, aguenta a popa e vira a proa. Ajusta-me esses calabretes, baldeia fazendas à toa. Descarregas de conversa, teu braço ou um pé. Vomitam pragas de mostardalhaço. Os corpos atirados em pedaços dão à costa, pela encosta. Juramos a nossa perdição, dando muito empolvatadas em nós próprios, sim senhor. Metido num saco d'água, gritamos uma vez ao Salvador. É muito grande, o tempo é muito frio, o mar é muito grosso, o vento é muito rijo, as águas são cruzadas, as vagas levantadas. Salve-se agora quem puder, por entre feridos e aflitos, nas cordas banhadas em sangue, mordem até bois e mosquitos, gritam mudos ou vêm surdos entre textos absurdos, um marinheiro de cabeça toda aberta, com os miolos todos podres, quase inerte num bueiro. Ai que cheiro! E a barça de milagre expirou, com barbas de boa questão, com muito nos consolou. Não tem que lavar as costas, enterrada, abençoada, lá ficou. O escuro é muito grande, o tempo é muito frio, o mar é muito grosso, o vento é muito rijo, as águas são cruzadas, as vagas levantadas. Estando nós em grande perigo, num enorme desvario, nadaram dois marinheiros e há pouco mais de meio rio. Arremateram contra eles dois lagartos muito grandes, que os esfarraparam todos embocados, com a qual vista ficamos assombrados. Ai, socorro! Ai, que um morro! Livra que nos fomos lá da pique e subitamente ao fundo com um negro pela mão. Barbado e caladinho, mas lá por dentro a cantar um cantuchão.
C'était un jour comme aujourd'hui, avec ce même vent du nord sec à vous couper le souffle, autour de midi. Le client dont je m'occupais était un gamin de 17 ans, un garçon du voisinage. Je le coiffais depuis ses 14 ans. Mais tout à coup, les mois d'avant, il s'était mis à me demander une iroquoise. Pas vraiment ma spécialité, mais je m'étais exécutée en faisant taire mon irritation. Ses cheveux, c'était son affaire. Le client a toujours raison. Il s'appelait Zizis. C'était le fils d'un concierge du voisinage. Un grand gars pâteau avec les cheveux huileux. Et moi, je devais faire de cet escoquerie une créature ornée d'une brosse de porc épic. Naguère, je me souviens, c'était un enfant réservé, poli, toujours premier à l'école. De ce temps-là, il m'appelait monsieur. Maintenant, c'était Évry tout court. Dans ses yeux s'était allumée une lueur curieuse. Il voulait, paraît-il, être un homme, comme si quelqu'un y avait fait obstruction. Un paquet de cigarettes américaines bossuait sa poche revolver. Il voulait aussi changer d'habit tous les jours, et puis il voulait des femmes et des motos. Hormis cela, rien ne comptait plus. Je venais juste, il me semble, d'actionner la tondeuse fine pour lui raser la nuque, quand la porte s'ouvrit en grinçant affreusement, laissant paraître un homme voûteux aux cheveux gris, un homme voûté aux cheveux gris, marqué d'un grain de beauté sur la joue. « C'est fermé, lui dis-je, cet après-midi, si vous voulez bien. »« Mais je suis Procopis, » fit-il comme si j'avais dit une énormité. « Je suis le concierge sur la place. » À croire qu'il n'y en avait qu'un de concierge sur la place. Sa voix rauque me frappa. « Ah, très bien, enchanté, simplement, je te demanderai de passer cet après-midi. Comme tu vois, j'ai un client. » Il s'est arrêté dans l'entrebâillement de la porte. Je lui fis signe de la refermer. Au lieu de quoi, il l'ouvrit toute grande et vint se planter devant moi façon ventouse. « Tu me rendras grand service. Cet après-midi, je vais en visite. J'ai juste besoin que tu me fasses la barbe. Je te serai très obligée. Dans l'état où tu es, tu penses à des visites, me dis-je en moi-même. D'ailleurs, ne pouvait-il pas se raser tout seul ? » Je l'examinais de pied en cap. Mal habillé, mais l'air digne. Plus voûté que la normale, presque bossu. Un type humain du temps jadis. Seuls ses yeux ne me pleurent pas. Ils étaient d'un gris sale et vilainement surmontés de sourcils broussailleux. Il regardait Sissis d'un air insistant comme pour dire « De mon temps, on cédait sa place aux gens âgés. » On aurait dit de la jalousie. « Ferme la porte, s'il te plaît, lui dis-je doucement. On va prendre mal. » Mettre les clients dehors n'est pas dans mon caractère. Et puis, c'était la Saint-André ou la Saint-Nicolas, enfin, un de tous ces saints que nous avons l'hiver. Je mis le jeune homme sur le cran supérieur. et l'autre, traînant les pieds comme un homme en chaussons, alla s'asseoir sur une des chaises, avec un journal que je lui donnais. Ce midi-là régna un silence de mort, un de ces calmes plats comme on produit seul les jours de très grand froid, ceux où morts et vivants se sont au coude à coude. Dans la boutique, une mouche volée. Comment diable s'était-elle fourrée là au cœur de l'hiver? Pour moi, cela reste un mystère.
Bouquinerie, bouquiner,
bouquineur,
bouquineur, bouquineur, bouquineur, bouquineur, bouquineur,
bouquineuse, bouquineuse,
bouquinarial,
bouquinarial,
bouquinaire, bouquin, non, bouquin, bouquise, bouquin,
bouquise,
bouquin con.
C'est la bouquinerie.
Lecture du fils du concierge par Victorine, des éditeurs associés. Merci beaucoup pour cette lecture.
Avec plaisir.
C'est un livre, alors j'ai le titre, mais pas l'auteur, si
oui,
vous pouvez... Me rappeler. Ah. Bah c'est, maintenant je l'ai. C'est Ménis Koumandareas. C'est ça.
Voilà, un auteur grec.
D'accord.
C'est le tout dernier des éditions Esperluette.
Oui. Alors, bah, vous nous l'aviez fait lire. C'est un livre très court, très fort, qui est. Esperluette, ils font aussi de l'édition jeunesse, non ? Également.
Ils ont une collection pour la jeunesse.
Oui. Ouais. Donc, voilà, avec ce genre d'ouvrage, on voit qu'ils se diversifient. Pas mal.
Ils ont une collection quand même littéraire, ça fait quand même 20 ans qu'ils existent, donc ils ont un beau catalogue aussi. Et celui-là, j'aime bien ce début qui plante bien un peu le décor, les trois personnages. C'est une fable un peu sur la vieillesse, sur le temps, sur la mort aussi. Il y a une ambiguïté, on ne sait pas trop, il y a des fantômes, enfin voilà. Il se passe des choses dans ce salon de coiffure et je vous invite à le lire.
On va faire un petit détour par la librairie portugaise, donc pas la librairie des éditeurs associés, mais celle qui est tenue par Michel Chandaigne. C'est Eric qui est allé faire un tour là-bas, n'est-ce pas ?
Oui, j'ai eu la chance d'interviewer le fondateur, Michel Chandaigne. Alors, la librairie portugaise, c'est Place de l'Estrapade, comme je disais tout à l'heure, et comme on l'a répété ensuite. Et... Sais-tu ce que c'est l'estrapade ?
Non, je
ou
ne sais pas.
Une estrapade.
Tu me dis ça avec un grand sourire, je sais.
Ben, c'est horrible. C'est un instrument de torture. C'est pour pendre les gens. Donc, place de l'estrapade, il y a une magnifique librairie, contrairement au nom de la place. Et c'est une fenêtre sur le monde lusophone. Donc voilà, j'ai interviewé Michel Chandaigne. Et c'est maintenant.
D'accord, oui. Allô, librairie portugaise ? Oui. Oui. C'était une commande internet.
Place de l'Estrapade, dans le 5e arrondissement de Paris.
Ah, d'accord.
La bouquinerie rend visite d'accord. à Michel Chandaigne dans sa librairie portugaise et brésilienne.
Ah, d'accord. Oui, j'avais dit d'attendre lundi. Voilà, hein, c'est ça. Bah, très bien, parfait. Tant mieux. Merci, au revoir. Merci.
La librairie a été créée en 86. Au début, je voulais faire une librairie juste sur Lisbonne parce que je pensais surtout développer les impressions typographiques que je faisais dans l'arrière-boutique. Quoi. Je voulais surtout être imprimeur, puis avoir un coin librairie sur Lisbonne. Bon, puis, évidemment, au bout d'un mois, Lisbonne est devenue le Portugal. Au bout de deux mois, le Portugal est devenu le Portugal et le Brésil parce qu'il y avait une très grosse demande à l'époque, en 86, d'une librairie... portugaise et brésilienne au cœur de Paris, et donc j'ai répondu vraiment à la demande. Au début c'était un peu flou, puis très vite, au bout d'un an, c'était une librairie de culture lusophone. Actuellement il y a beaucoup de Brésiliens à Paris, beaucoup de gens qui font leurs études, et c'est assez joli, ils achètent beaucoup de livres en français sur le Brésil, ou des traductions, pour offrir à leurs amis français.
Nem vem que não tem. Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudá, sacudim, gundim, gundá.
Et alors côté portugais, alors c'est très mélangé. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les deuxième, troisième génération de portugais qui parlent parfois plus mieux français que portugais et qui redécouvrent la culture portugaise qui parfois était un peu occultée dans leur famille, mais ils lisent en français. et ils veulent que leurs enfants parlent portugais, donc ils achètent des livres pour leurs enfants. Et puis il y a tout ce qu'on appelle les couples mixtes, hein, luso-français ou franco-brésilien, ou le membre disons, français veut découvrir la culture de l'autre et a besoin de livres, et puis élève les enfants dans les deux langues, donc un livre pour enfants. La mixité dans les couples, c'est un facteur excellent pour la librairie, pour la vente des livres, parce que ce sont des gens qui ont besoin de livres pour se cultiver eux-mêmes, pour enseigner à leurs enfants. On sort trois livres très importants là, très, très passionnants. Ce livre sur le voyage des plantes, un livre sur les paravents japonais qui peignent l'arrivée des Portugais au Japon au XVIe siècle, début XVIIe, très beau livre. Puis ce livre qui vient de sortir, qui s'appelle La découverte des Maranes, qui donne les premiers textes sur la découverte de ces crypto-juifs, de ces juifs cachés dans les montagnes du Nord, et qui sont découverts au début du XXe siècle par un ingénieur polonais, Samuel Schwartz. Le voyage des plantes et les grandes découvertes. C'est le voyage des plantes vivrières, hein, c'est-à-dire qui semble devenir un succès très très vite. Il y a un bouche à oreille extraordinaire, un accueil des libraires enthousiastes. C'est un livre magnifique, tout en couleurs, et qui apporte un regard tout à fait nouveau sur les plantes. Pourtant, il y en a eu des livres, et qui montre comment quasiment toutes les plantes vivrières ont changé de continent au 15e, 16e, 17e siècle sur les bateaux portugais. Qui faisait la navette pour des raisons diverses, commerciales ou l'esclavage, entre le Brésil, l'Afrique et l'Asie.
Entretien donc à l'instant avec Michel Chandaigne dans la bouquinerie. Des bouquins, il y en a plein la table. Ça va, une pile d'au moins un mètre ou pas. Parmi eux, deux gros, très gros et très beaux volumes. C'est le journal d'Ava que vous avez publié cette année aux éditions Point de Suspension.
Oui, enfin pas tout à fait en décembre dernier.
Ah d'accord, voilà. Donc pas du tout cette année.
Non, mais c'est pas grave. De toute façon, le temps des petits éditeurs n'est pas le même temps que pour les gros, en fait. Le temps qu'on se fasse connaître, un riff, ça peut prendre un an ou deux.
Et donc, Erolf Totor, ça fait plus longtemps, j'imagine, qu'un an que vous travaillez sur ce livre. Un beau livre. Un énorme livre, c'est un bel objet, belle histoire avec un petit ou un grand H, puisque c'est aussi historique. Le journal d'Ava qui est une femme de Cro-Magnon. Pour élaborer tout ça, vous avez mis combien de temps ?
Donc ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet. Et c'est pas fini, parce que... C'est infini, je pense, puisque c'est sur l'humain, sur l'humanité, en fait, sur l'histoire de l'homme et surtout l'histoire de la femme. Là, c'était un peu la chance de rencontrer Brigitte et les éditions Point de Suspension pour pouvoir, clore une première partie sur ce travail.
Vous vous êtes rencontrés une fois l'ouvrage terminé ?
Alors non, en fait, notre histoire, elle commence en fait en 2009.
D'accord.
En 2009, je rencontre Flore au Salon du Livre de Montreuil, qui me montre son travail, mais plus sa partie illustration, puisque moi, je fais principalement, en fait, le 99% de mon catalogue, en fait, sont des albums pour la jeunesse, donc pour les enfants de 2 à 10 ans. Et à ce moment-là, donc Flore me montre son travail dans l'espoir d'être édité, enfin de travailler avec moi sur un texte qui n'aurait pas d'illustration. Et c'est tant mieux parce qu'en fait, c'est une histoire qui commence là. On fait un premier album pour les enfants, pour les tout-petits, et puis un deuxième. Et puis ce faisant, je pense qu'une amitié se construit. Je vais la voir travailler à son atelier. Enfin voilà, on fait vraiment connaissance. Et voilà, et je me rends compte de cet énorme travail de 20 ans que je découvre et c'est absolument incroyable. Et ce qu'il y a aussi de particulier chez les petits éditeurs, c'est qu'on peut se prendre des coups de folie.
C'est-à-dire on peut se prendre des coups de cœur, des coups de folie. Et
on
puis,
sort un double album de 10 kilos.
On sort un pavé en 2 volumes, 450 pages dans un coffret et même pas peur. Donc voilà, c'est ça. Donc
vous n'avez même pas eu peur non plus
Non, moi, je n'ai pas eu peur, mais surtout, je suis très, très contente parce que c'est exceptionnel de rencontrer quelqu'un qui a un coup de folie comme ça. Et donc, voilà, elle m'a dit, donne-moi ton texte, je vais regarder. C'était au mois de juin. Je te dis à la rentrée si ça nous plaît, si on le fait, qu'est-ce qu'on fait. Et au mois de septembre, Brigitte m'appelle, me dit, allez, bingo, on y va. On le fait. Et là, commence, quand on a travaillé un an et demi, en s'appelant tous les jours. Non, pas tous les jours, mais beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, on s'appelle qu'une fois par semaine. Et c'est vrai qu'on se manque un peu depuis que le livre est sorti. Mais on a énormément travaillé avec aussi Philippe, qui a fait toute la maquette et qui est complètement formidable et génial, qui a sublimé, je dirais, mon travail et qui a donné encore plus de féminité à l'ensemble de l'ouvrage. Donc c'est 20 ans de travail, c'est beaucoup de recherches, c'est très documenté, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur la préhistoire, l'ethno, l'anthropo, les mythes, toutes les histoires d'hommes, toutes les histoires qui racontent les histoires des humains, comment on se raconte notre histoire, comment on s'intéresse à nous-mêmes selon les périodes, la manière de se la raconter, en fait. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on est quand même très mégalo et très ethnocentré, et on se raconte toujours les histoires pour être au centre, pour être le héros et au centre. Donc quand on lit plein d'histoires, on se rend compte que finalement il y a plein de versions possibles. Et puis j'ai pris tout ce qui me plaisait dans tout ce que j'ai lu, et j'ai inventé cette histoire donc en partant des petites Vénus préhistoriques. Donc c'est des petites Vénus qui ont été sculptées, alors elles sont datées environ de 22 000 ans. On n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Il y en a pratiquement de l'Ukraine aux Pyrénées, donc ça fait environ 2000 km. On en trouve encore, là, on en a trouvé une récemment qui est beaucoup plus vieille, donc on peut imaginer que pendant 10 000 ans, sur 2-3 000 km, une civilisation a produit des petites statuettes qui devaient signifier quelque chose d'assez important pour qu'il en reste autant avec autant de temps après, parce qu'il y en a sûrement des centaines, des milliers qui ont disparu. Et donc, je me suis demandé qui avait fait ça, pourquoi, comment, et j'ai inventé une histoire. Et donc, j'ai utilisé la silhouette de la Vénus de Lespug pour développer mon personnage, donc qui s'appelle Ava. Bon, c'est facile, hein, c'est Ève, la première femme. Et donc, elle est dans la nature et elle crée de la culture, elle invente du sens, elle compte, elle marque, elle note, elle essaye de donner de l'ordre, de comprendre des choses. Alors, comme elle n'a pas beaucoup d'informations, elle se trompe, elle croit des choses fausses, ce qui est très, très bizarre pour les humains, hein, c'est très rare quand même. Donc, elle compte les lunes, mais ça ne marchera pas, mais elle ne sait pas encore qu'on ne peut pas compter les lunes pour compter les années. Et puis elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse d'un chasseur qui s'en va tout le temps, qui va tout le temps chasser des mammouths et des bisons.
C'est tragique.
Et qui, voilà, et qui part. Alors, pendant qu'il n'est pas là, et elle rêve. Et donc, elle n'écrit pas, parce qu'évidemment, il n'y avait pas encore l'écriture, mais elle dessine, elle sculpte, elle réfléchit. Et puis, elle fait sa vie de chasseur-cueilleur, hein, qui est assez tranquille. Ils sont bien organisés. Ça fait 10 000 ans qu'ils vivent pareil. Donc, il n'y a pas de problème de nourriture. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas trop de maladies. Il y a quelques blessures, souffrances. Bon, il y a les chamanes, la vieille chamane qui connaît les plantes. Enfin, c'est assez tranquille, tellement tranquille qu'on peut commencer à rêver et à inventer des histoires et puis à être amoureux et puis à vivre, quoi.
Il faut préciser que vous le présentez donc cet ouvrage sous forme d'un journal intime et sous la, disons, compacté en un an. Vous avez séparé vos deux livres en 4 saisons et donc vous vous intéressez à vraiment, enfin quelque part, le travail de cette femme, mais son intériorité aussi sur toute une année. Et il va lui arriver plein de choses, parce que c'est une femme, c'est aussi une artiste, vous avez dit, elle crée, elle va devenir mère, et c'est peut-être quelque chose dont on se rend compte quand on constate votre travail, c'est que ça a l'air aussi d'un gros bébé qui a mûri, qui a vraiment été désiré, et qui a mis le temps de... de grandir et de mûrir. Enfin, on sent une implication immense dans votre travail.
Oui, alors c'est un journal intime, donc c'est tous les jours un petit texte et une image. Pour ça, ça s'est élaboré au fur et à mesure. Moi, je suis plutôt je suis plutôt illustratrice ou dessinatrice. Je dis iconographie, c'est-à-dire que je fabrique des images, que ce soit des dessins, des gravures, des peintures, des vidéos, des films, et finalement des mots, parce qu'avec les mots, on fait des images aussi. Le début de cette histoire, c'était mon diplôme des arts déco, ce qui s'intitulait « Les chasseurs-cueilleurs du paléolithique étaient plus heureux que nous », qui était une manière de dire que j'étais pas aux arts déco pour entrer dans une entreprise et dans une usine, mais que j'avais bien l'intention d'être libre et de créer comme au premier jour et pas d'être une machine productive. Bon, je sais pas si tout le monde a compris mon message, mais en tout cas, moi, j'ai continué dans cette direction. De chercher et d'ingurgiter, de me remplir de tout ce que les humains avaient fait et de le digérer et de le ressortir à ma façon. Donc il a fallu mettre de l'ordre dans toutes ces passions et tous ces désirs. Et donc le temps compté, que j'ai fait comme un vase, j'ai compté les jours, j'ai compté les mois, j'ai compté les saisons, j'ai marqué jour après jour pour essayer de sortir une trame et de mettre en ordre tous mes propres désirs et mes propres questionnements.
Et pour la faire connaître à nos auditeurs, cette histoire, ou du moins une partie de cette histoire, vous êtes venue accompagnée d'une lectrice, lectrice au sens qui va lire et pas qui a lu, quoique vous l'avez forcément lu pour nous le lire.
Je ne compte pas, je lis.
Et vous avez établi un travail particulier ensemble pour mettre à l'oral cet ouvrage.
En fait, en tant que graveur, depuis le début depuis une vingtaine d'années, je voulais pas faire des expositions, simplement mettre des gravures encadrées, accrochées au mur. Ça me satisfaisait pas. Donc j'ai créé une grotte qui s'appelle la grotte nomade, qui est une installation avec des toiles. Et puis au fur et à mesure, ça s'est développé. Et dedans, il y a des peaux de bêtes, il y a des odeurs, il y a un son. Je voulais aussi solliciter les cinq sens. Je voulais aussi que si quelqu'un qui manquait un sens, il pouvait profiter de l'installation, en particulier les personnes non-voyantes. Donc j'ai mis ça au point au fur et à mesure. J'ai fait la grotte 1 pendant 18 ans. Et puis là, j'ai fait la grotte 2 qui vient de sortir, qui est donc une grande tente qu'on installe régulièrement, donc qui accompagne la sortie du livre. Et puis il fallait donner une voix à Ava. Et j'ai rencontré Alexandra et je lui ai proposé d'être la voix d'Ava. Et elle nous a donné ça, elle nous a fait vivre Ava. Et donc, chaque fois que j'installe la grotte, elle vient, elle lit des extraits du journal et elle emmène les gens il y a 22 000 ans. Et donc, elle est là exprès ce soir pour vous emmener.
Et on écoute ça tout de suite.
Bouquinerie, bouquiner,
bouquinaire,
bouquinale, bouquinaire, bouquinal, bouquineux,
bouquineuse,
bouquinarial. Bouquinairement, bouquinant, bouquin.
Le mois de l'hiver. Premier croissant montant du mois de l'hiver. Je prépare un calendrier pour dater mon journal. Sinon, je ne sais plus quand j'ai écrit quoi. Avec mon nouveau système, je marquerai les lunes et les saisons. Je saurai. J'ai passé 19 hivers. Je suis vigoureuse. Je m'appelle Ava, fille de Mana, fille de Ghana, fille de la grande Ava. Deuxième croissant descendant du mois de l'hiver. Je trace sur le sol. Je fais des signes. Je marque. J'écris mon nom. Ava. J'aime cueillir et chasser. J'aime préparer la nourriture pour les autres. Je connais les plantes comestibles. J'aimerais connaître le secret des plantes magiques. Seules certaines femmes les connaissent. Il faut être désigné par la grande mère et initié par une vieille vieille. Ce matin, j'ai déterré des racines pour Anaya. Comme toujours, je lui demande ce qu'elle va en faire. Elle garde le secret. Anaya ne veut pas me donner le chemin des esprits. Elle veut toujours m'accompagner. C'est un pays où l'on ne peut aller seul. Toujours la même réponse. C'est toujours Anaya qui nous mène vers le monde invisible. Elle annonce le temps, elle organise. Le mois de la lune, deuxième croissant montant du mois de la lune. La nuit, je regarde la lune. Elle change chaque nuit. Au début, elle est toute petite, comme une corne de gazelle, fine et étroite. Nuit après nuit, elle grossit jusqu'à devenir un cercle. Puis, elle commence à disparaître, tout aussi progressivement, mais dans l'autre sens. Puis, elle meurt. Mais quelques nuits plus tard, la lune réapparaît. Je peux la voir de toutes les places où nous nous arrêtons. Elle met 28 jours à reproduire sa période. Comme la période de mon sang qui part. La lune est le sang de la grande mère. Quand la nuit est noire, c'est son sang qui est parti. La végétation a aussi une période. Toutes les 13 lunes, après le mois de la terre gelée, la nature renaît. J'aime les choses régulières. Elles nous donnent un peu de stabilité. Nous nous déplaçons tout le temps. Chaque fois que je commence à être bien à une place, il faut partir. 28 jours pour une nouvelle lune et 13 nouvelles lunes pour une fête de la terre gelée. Quand mon sang ne coule plus, c'est qu'un petit de la grande mère est entré dans mon ventre. Quand la lune ne disparaîtra plus, c'est que la grande mère préparera un nouveau monde. Quand cela arrivera, notre monde n'aura plus de rythme et la terre gèlera pour toujours.
We were four only children, sticking closely together. There was love and there were fights, my little brother. In no time yesterday came, in no time we flew away. Like feathers blown by the wind, each one on his way. Is there a way to go back, back in the past and through life? Back in the past to find you and bring you back from the night. Is there a way to the sky, a little hole through the clouds? Maybe I should climb the stars so that I bring you back. You are gone far, far away in the deep blue. The lady in black took you, no matter how strongly we prayed. You are gone far, far away in the deep blue. And now I'll never see you, never more, never again. We were four only children who grew up far from each other. But I thought you'd always be there, my little brother. You traveled around the world, but I will never hear your words, 'cause life didn't give me a chance to see you again. Is there a way to go back, back in the past and through life? Back in the past to find you and bring you back to the light. Is there a way to the sky, a little hole through the clouds? Maybe I should climb the stars so that I bring you back. You are gone far, far away in the deep blue. The lady in black took you, no matter how strongly we prayed. You are gone far, far away in the deep blue. And now I'll never see you, never more, never again.
Jehanne Gaucher, le morceau In the Deep Blue choisi par Victorine des éditeurs associés. On écoutait à l'instant donc une lecture par Alexandra du journal d'Ava. Merci beaucoup pour cette lecture.
Merci.
Qui est particulièrement prenante. Ça donne envie d'aller l'écouter au fond de ce tipi que vous avez construit pour vos lecteurs. Un dernier point avant de se quitter, à propos des éditeurs associés, c'est le festival Raccord, qui est à sa troisième édition cette année, c'est au mois d'avril. Comment c'est parti déjà, cette idée de faire un festival sur tout Paris? C'est quand même une sacrée idée pour des éditeurs indépendants.
Oui, alors au début, il a commencé un peu autour de la librairie, d'abord dans le 5e, 6e arrondissement. L'année dernière, on est allé un petit peu plus loin. Et voilà. Et là, on va vraiment dans tout Paris, ou presque. Pas encore,
dans 10 ans, le monde entier
vivra le festival. Donc là, les dates déjà qu'il faut retenir, c'est du 5 au 10 avril. Voilà, donc c'est 2016, évidemment. Oui. C'est un festival qui est organisé par les éditeurs associés, qui est en partenariat avec une quinzaine d'autres éditeurs indépendants. Donc en fait, c'est un festival pluridisciplinaire qui crée des liens à chaque fois entre un des livres d'un des éditeurs vers une autre forme artistique ou une autre forme de savoir. L'idée aussi, c'est de sortir, c'est d'amener le livre dans des endroits aussi où on ne le trouve pas habituellement. Alors évidemment, on travaille quand même avec les acteurs du livre, les bibliothécaires, les libraires évidemment, mais on cherche aussi à s'ouvrir à d'autres publics aussi.
Donc c'est des lectures, des spectacles, voilà, des conférences, des concerts peut-être.
Voilà,
aussi.
Ça donne lieu à des lectures musicales, des projections, des concerts. Là, peut-être pour donner un petit peu envie, déjà je peux annoncer en avant-première. Voilà, par exemple avec les éditions Corti autour de leur collection Biophilia, on va faire quelque chose autour des oiseaux au musée de la chasse. Avec les éditions du Castor Astral, ce sera une lecture de l'auteur Zeno Bianu autour de Chet Baker, qui sera accompagné d'un trompettiste saxophoniste.
C'est super.
On espère qu'on puisse aller à la Maison de la Poésie. Il y aura une sorte de conférence déambulation au Jardin des Plantes. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura des ateliers aussi pour les enfants, pour les adultes. Il y aura une lecture avec les éditions du Chemin de Fer autour de leur livre « Fils de chien ».
Tout ça en 5 jours partout dans Paris. Et c'est 5 au 10 avril.
Voilà.
Notez dans vos petits agendas, 5 au 10 avril. Et 10 rue Tournefort aussi, adresse à noter. Il faut noter plein de choses. Ça réunit vraiment énormément de monde. Et vous, peut-être en tant qu'auteur, dessinatrice dans ces émissions, vous êtes entourée et défendue par énormément de monde.
Oui, et puis voilà ce que je voulais rajouter, peut-être le mot de la fin, mais c'est dire que c'est très, très sympathique de travailler avec Brigitte, avec les éditions Point de Suspension, avec les éditeurs associés, toute l'équipe, que le festival l'année dernière et l'année précédente, c'était vraiment très bien, c'est très intéressant, c'est riche, c'est toujours pertinent, c'est toujours pointu, c'est toujours avec passion, voilà. je vous conseille vraiment de venir, tout est bien, il n'y a rien qui il traîne, il n'y a rien de médiocre, il n'y a rien de laissé aller, tout est parfait, chiadé à fond. Voilà.
Foncez-y, merci beaucoup. Merci. Brigitte Cazot, Anne Lima, Victorine, Erolf Totor, Alexandra, merci à toutes d'être venues. Merci à Lorna, à la Réal, comme d'habitude, à Eric et son beau reportage. Et nous, on vous dit à dans 2 semaines. Mais avant de vous dire à dans 2 semaines, on fait un coucou à BRTZ.
Salut la bouquinerie, ça va?
Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ouais.
C'est les retrouvailles. Alors, vous nous racontez quoi ce soir?
Eh ben, ce soir, on reçoit Nodet. Nodet, qui est un fameux beatmaker qui a produit plein de sons pour le rap français et plein d'autres choses aussi. Donc, il sera avec nous pendant l'émission. Il va nous faire un petit mix en fin d'émission et nous parler de son EP Atrasis.
Eh ben, faut pas quitter alors. Ça va danser, ça va bouger sur Radio Campus. Absolument. Paris. Salut.
Salut, bonne soirée.